Mercredi dernier, nous parlons des dangers qui menacent la vie d'un leader. Alléluia. Les dangers auxquels il est confronté, les dangers dont il doit faire face. Alléluia. Et je voudrais que nous lisions notre premier texte dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 78. On va prendre le verset 70 au verset 72. 70 à 72. Psaume chapitre 78, le verset 70 au verset 72. Je lis au nom de Jésus. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec les mains intelligentes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien aimés. Ce petit texte que nous venons de voir nous introduit clairement dans le leadership. Vous voyez, chaque fois que Dieu choisit un leader, il le tire de quelque part. Alléluia. Il le tire de quelque part. La Bible dit, il choisit David, son serviteur. Psaume 78, le verset 70 au verset 72. Amen. La Bible nous dit, il choisit David, son serviteur. Je voudrais que vous souligniez le mot son serviteur, parce que c'est important. C'est important. Dieu ne choisira jamais quelqu'un qui est son maître. Dieu ne choisira jamais quelqu'un qui va venir le commander. Dieu ne choisira jamais quelqu'un qui va venir le contredire. Dieu ne choisira jamais quelqu'un qui va être rempli d'orgueil. Dieu ne choisira jamais quelqu'un qui va venir s'opposer à ses plans. Mais il choisit qui? Son serviteur. C'est quoi je nous ai dit depuis le début. Un leader, un ouvrier est d'abord un serviteur. Il sert quelqu'un. Il sert quelque part. Tu ne peux pas être serviteur si tu ne sais pas. Si tu ne peux pas être serviteur, il n'y a pas de nom plus glorieux que d'être serviteur de Dieu. Alléluia. D'être serviteur de Dieu. Et la Bible dit qu'il le tira des bergeries, derrière les moutons. Derrière, c'est-à-dire que quand il a appelé David, David faisait un travail pratique. Bien-aimé. David était occupé quelque part. David avait une responsabilité. Vous voyez? Il le prit derrière les brebis qui allaient pour le faire paître. Ça nous rappelle Jésus qui va dire à Pierre de le suivre et il va faire de lui de pêcheur de poissons qu'il était, il va devenir pêcheur d'hommes. Alléluia. Donc, nous voyons clairement ici le même processus. Le même processus. Et comment David a conduit les brebis du Seigneur. La Bible dit, il les dirigea avec un cœur intègre et les mains intelligentes. Rappelez-vous, je vous ai dit la dernière fois que le cœur intègre ici parle du caractère. Les mains intelligentes ici parlent de la compétence, parlent du don, parlent des talents. Alléluia. Parlent du don, parlent des talents. Il est donc important que le caractère et les compétences soient associés pour la bonne marche du leadership. Un leader qui met en priorité les compétences sans le caractère va vite mourir. Et un leader qui met le caractère sans y associer la compétence ne va pas durer. Alléluia. Les deux doivent marcher ensemble. Rappelez-vous, je vous ai donné 4 éléments qui témoignent comment les compétences peuvent devenir un problème dans la vie d'un homme. Premièrement, lorsque les compétences dépassent le caractère. Deuxièmement, quand le feu des projecteurs surpasse la sanctification. Troisièmement, quand le talent l'emporte sur la disponibilité. Quatrièmement, quand le don ombrage le service. Alléluia. Et donc nous avons ensuite vu les dangers. Les dangers proprement dits qui menacent la vie d'un leader. Nous avons commencé par l'orgueil. Nous en avons énormément parlé. Ensuite, nous avons parlé de l'égoïsme. Alléluia. L'égoïsme. Et enfin, nous étions sur la jalousie. Ah oui, la jalousie. Cette histoire. Tu es jaloux. La Bible nous parle dans le livre de Genèse chapitre 30, à partir du verset 1, comment Rachel, voyant comment elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle a été attaquée par le péché de la jalousie vis-à-vis de sa sœur. La Bible dit, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. En d'autres termes, si tu ne me donnes pas les enfants, je me suicide. Vous voyez? C'est pourquoi la jalousie entraîne très souvent, non, la manipulation. La manipulation. Alléluia. Un jaloux est un manipulateur parce qu'il veut atteindre sa satisfaction personnelle aux dépens des autres. Alléluia. Alors nous nous sommes penchés sur la définition de la jalousie. Nous avons vu que la jalousie est un sentiment de dépit mêlé d'envie dû à ce qu'un autre obtient ou possède ce que l'on aurait voulu obtenir ou posséder. Quand quelqu'un a ce que tu aurais voulu, tu jalouses. Alléluia. Ton sentiment de dépit, de découragement, de désespoir se mêle à l'envie. Et nous avons vu également que la jalousie est une disposition ombrageuse de celui qui voue un amour possessif et exclusif à quelqu'un et vit dans l'inquiétude et le soupçon permanent de son infidélité. Ça, c'est dans le cadre du couple, de la relation entre deux personnes. Alléluia. Quand l'autre a cet amour excessif, cet amour possessif, qui le pousse dans son inquiétude à soupçonner l'autre. Ah, comme j'étais appelé, tu n'as pas décroché. Tu parlais avec qui? Quel collègue? Quel ami? Quelle sœur? Alléluia. Une dame qui était très possessive vis-à-vis de son mari avait amené son mari à changer les noms dans son téléphone. Alors il mettait boutiquier, il mettait Benskineur, chauffeur. Et chaque fois que ça sonnait, il dit, ah, c'est le boutiquier. Ah, c'est le Benskineur. Ouais, c'est lui qui me porte de temps en temps là. Et sa femme n'y voyait que le feu. Et parfois même, c'est elle-même qui prenait le téléphone et dit que, ah, c'est le boutiquier qui t'appelle. Oh, merci chérie. Et il se recule pour parler. Voyez, l'atmosphère de la jalousie peut transformer les bonnes dispositions d'un homme. Alléluia. Bien-aimé, nous avons vu que d'après la définition de ces deux sens, on remarque une connotation négative. Il en est de même avec la Bible. Les Écritures ajoutent à cela une disposition positive. Dans un sens négatif, la jalousie se caractérise par l'envie ou de la haine lorsqu'on voit quelqu'un jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou que l'on aimerait posséder exclusivement. Vous allez voir des gens être jaloux du mari des autres alors qu'ils ont un mari. C'est comme ça que vous allez voir des femmes jalouser le mari des autres alors qu'elles ont un mari. Vous allez voir des femmes, des hommes jalouser les femmes des autres alors qu'ils ont une femme. Alléluia. Alors nous avons vu que le drame de la jalousie est qu'il est malheureusement possible de passer toute sa vie à regarder à ce qu'on n'a pas et à jalouser les autres qui possèdent ce qu'on souhaiterait avoir. Alléluia. Ça devient un problème, hein? C'est une maladie. Est-ce que vous savez que sur le plan psychologique, c'est une maladie mentale qui prédispose à la folie. Alléluia. Bien-aimé. Et la jalousie crée de la frustration. La personne est toujours frustrée. La personne est toujours irritée. La personne est toujours insatisfaite. Donc, elle crée de la frustration, de l'irritation, de l'insatisfaction. Elle pollue et détériore les relations humaines. Lorsque tu es à l'église avec ton frère, tu as envie ton frère, tu as envie le don, tu as envie sa manière de faire, sa manière d'être. Bien-aimé, ça va créer en toi, ça va empoisonner ta vie. Ça va empoisonner ta vie. Vous allez voir que celui qui est jaloux va chercher à vivre l'histoire de quelqu'un. Il ne vivra jamais sa propre histoire. Alléluia. Croyant que l'histoire de l'autre est meilleure que la sienne. Alléluia. Je voudrais te demander de vivre ton histoire. Je voudrais te demander de vivre ton histoire. Bien-aimé, vis ton histoire. Observons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. L'apôtre Paul va faire une déclaration à ce niveau. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Alors, que dit ce texte? Il dit ceci: en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voyez, à cause de la jalousie, au milieu de l'église de Corinthe, il y avait les disputes. L'apôtre Paul ici nous donne une des sources de la jalousie, une des sources des disputes quelque part. Une des sources des disputes, c'est quoi? La jalousie. La jalousie. Regardons dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Chapitre 12, le verset 20. Que dit l'apôtre? L'apôtre dit: car je crains de ne pas trouver à mon arrivée tel que je voudrais d'être moi-même, tel que je voudrais. Et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisants, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. L'église de Corinthe. Rappelez-vous que l'église de Corinthe était l'église des dons. C'est l'église qui avait manifesté les 9 dons spirituels. Mais malgré les dons, ils étaient charnels, puisque la jalousie opérait au milieu d'eux. Bien-aimé, lorsque ton caractère n'est pas travaillé, la jalousie peut être un problème dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Voyez? Vous voyez, c'est intéressant ce texte-ci. Ça nous donne de comprendre que tu peux développer tous les dons de la terre. Et si tu ne fais pas attention à ton caractère, la jalousie peut être un frein à ton épanouissement. Alléluia. La jalousie peut être un frein à ton épanouissement. Vous voyez? Chaque fois que les hommes sont jaloux, ça provoque dans leur cœur l'envie. Et l'envie est une chambre précédant le meurtre. Précédant le meurtre. Ah oui. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 15, le verset 10. Alors que les principaux sacrificateurs avaient livré Jésus entre les mains des autorités, la Bible dit ceci: car ils savaient que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Par envie. Par envie. Bien-aimé, Matthieu dit, quand il savait que ce n'était pas en vie, qu'il avait livré Jésus. Mais bien aimé, chaque fois qu'un homme est jaloux, la pression de la jalousie engendre l'envie. Et la pression de l'envie engendre le meurtre. Alléluia. Alléluia. La Bible dit l'envie est la carie des eaux. L'envie est la carie des eaux. Proverbe chapitre 14, verset 30b. Alléluia. Est la carie des eaux. Mais bien aimé, nous devons donc faire attention. Paul affirme qu'elle trouve sa source dans la mauvaise nature humaine, dans le vieil homme. Alléluia. Il dit l'envie, la jalousie trouve sa source dans le vieil homme. Galates chapitre 5, le verset 20. Alléluia. Il dit la jalousie conduit parfois à s'opposer et à contredire les autres. Oui, il y a des gens que par jalousie, parfois des réunions, ils disent non à tout ce que tu dis. Pas parce qu'ils ont une conviction. Pourquoi tu dis non, je ne suis pas d'accord. Il contredit seulement parce qu'il est jaloux de toi. Pas parce qu'il a une autre idée à proposer. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Rien de bon ne doit venir de toi. Chaque fois que tu lèves je vais dire quelque chose. Non, je ne suis pas d'accord. Mais elle n'a encore rien parlé. Non, même avant qu'elle ne parle, je sais déjà. Je ne veux plus. Ah, la jalousie. Alors, il y a deux types de réactions qui apparaissent lorsqu'un homme est jaloux. Comment ça se passe? Il y a deux types de réactions. La première consiste lorsqu'un homme est dans la crise de la jalousie. Lorsqu'une personne est dans la crise de la jalousie, bien-aimé, il y a deux types de réactions. La première consiste à l'étouffer et à la museler continuellement. Vous voyez? Il y a des gens qui sont jaloux, ils étouffent leur jalousie. Le leader peut être jaloux, frustré et irascible pendant de nombreuses années et même toute sa vie. Le problème est le suivant, elle ronge intérieurement. Elle engendre à ce moment-là l'amertume et la rancœur. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a la première catégorie des jaloux. C'est la catégorie qui essaye d'étouffer sa jalousie. De sourire à tout, d'être content, de faire semblant d'être content pour tout ce qui se passe. D'être content. Oh, gloire à Dieu. Depuis le premier jour de ce mois, on prie pour les ennemis cachés. On prie contre les ennemis cachés. Ça, c'est la première réaction. La première réaction, c'est quelle? La personne consiste à étouffer sa jalousie. La deuxième réaction, bien-aimée, le leader ne la contient pas longtemps. Elle explose et se met en colère. Devient agressive et trouve des arguments pour justifier son attitude. Vous allez voir de telles personnes dire, vraiment, moi, je ne peux pas, moi, je ne garde pas. Et quand j'ai quelque chose à dire, je dis. Non. Une personne normale ne peut pas dire tout ce qu'elle a en tête. C'est que le monde ici va prendre feu. Est-ce qu'on est ensemble? Si tout le monde disait ce qui venait dans sa tête, sur prétexte qu'il est vrai, mais personne ne vivrait normalement. Il y aurait la guerre dans toutes les maisons. Est-ce qu'on est ensemble? Il y aurait la guerre partout. Voyez? Ici, le jaloux ne va pas camoufler, ne va pas étouffer sa jalousie, mais va l'exprimer par la colère. Va l'exprimer. Regardez, quand Joseph a eu son songe, Genèse chapitre 37, premier songe, il est allé voir ses frères. Bon, ça coulait, ça va. Ok, on a écouté. Quelques temps plus tard, il revient, il dit, Dieu m'a encore donné. On dit, mais c'est quoi ton problème? Hein? C'est quoi? C'est quoi? Et la Bible dit au verset 11 du Genèse chapitre 37, ses frères eurent de l'envie contre lui. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Ses frères eurent de l'envie. C'est-à-dire, ils l'ont jalousé. Ils ont eu pour lui de la jalousie. Pourquoi lui? Pourquoi Joseph? Pourquoi Joseph? C'est pourquoi un jaloux va toujours avoir cette question de manière permanente dans sa tête. Pourquoi l'autre? Pourquoi l'autre? Pourquoi toujours l'autre? Alors si toi, pendant que tu marches, ça, chaque fois que tu es dans une situation, ça sonne toujours. Pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours lui? Tu es jaloux. Dis à ton voisin, tu es jaloux. Si à chaque fois que ça monte dans ton cœur, pourquoi lui? Toujours lui. Sache que tu viens d'être recruté dans le ministère des jaloux. Alléluia. Dans le ministère des jaloux. Voyez, elle explose. Le leader ici explose, se met en colère, devient agressif et trouve des arguments pour justifier son attitude. Mais la véritable raison est rarement avouée, car c'est humiliant de reconnaître sa jalousie. C'est humiliant que je suis jaloux. Pourtant, pour s'en être délivré, il est indispensable de la discerner, de l'admettre et de vouloir s'en débarrasser. Quatrième danger qui menace le leader. L'infaillibilité. L'infaillibilité. Alléluia. L'infaillibilité. Amen. Marc chapitre 14, verset 38. Marc 14, verset 38. Jésus dit à ses disciples, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Autrement dit, nous sommes tous faillibles. Alors au moment où tu dis que tu es infaillible, bien aimé, le terme infaillible ici signifie sans erreur, parfait. Alléluia. Parfait. Quelque chose d'infaillible est entièrement digne de confiance. Une autre notion similaire aux Écritures, c'est une autre notion similaire à l'Écriture, bien aimé. Cela veut dire à l'inhérence. Quand on parle de l'inhérence, cela veut dire tout simplement que la Bible est sans erreur. Quand on parle de l'inhérence des Écritures, des Saintes Écritures, cela veut dire qu'elle est sans erreur. Alors, ma question est, en tant que leader, peux-tu être infaillible? Peux-tu être infaillible? La Bible revendique son infaillibilité. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19. 2 Pierre 1, 19. Il dit ceci. Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Certaine. D'autant plus certaine la parole des prophètes. Pierre poursuit par une description de l'apparition des Écritures. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 19 au verset 21. Alléluia. Voyez, si Dieu donc est infaillible, sa parole le sera aussi. Alors la doctrine de l'infaillibilité des Écritures est fondée sur la perfection de Dieu. Sa parole est parfaite, elle donne du réconfort, car lui-même est parfait. D'un point de vue théologique, Dieu et sa parole sont étroitement liés. Le Seigneur Jésus est appelé la parole. Jean chapitre 1, le verset 14. J'essaie de vous amener quelque part. Mais aujourd'hui, nous découvrons qu'il y a des leaders infaillibles. Les autres ont le droit d'être dans l'erreur. Les autres, en fait, lui, il n'est jamais dans l'erreur. Il ne se remet jamais en question. Et c'est compliqué. Vous savez, il y a un autre voisin de l'infaillibilité. C'est les perfectionnistes. Les perfectionnistes sont des personnes qui estiment être la norme et n'acceptent pas à côté d'eux des personnes faibles. Alléluia. Et c'est très difficile de travailler avec quelqu'un qui a un esprit de perfectionniste. Qui a un esprit perfectionniste. Il voudra toujours faire les choses par lui-même. Il ne permettra pas. Quand tu veux commencer, et en général, les perfectionnistes sont des colériques à la face. Des colériques à la base et des intolérants. Des intolérants. Oh, bien aimé. Bien qu'il y ait ce caractère de perfectionniste, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Tu as besoin des autres. On a tous besoin les uns des autres. Et la force d'un homme commence le moment où il reconnaît qu'il a besoin de l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? La force, oh mon Dieu, mon roi. Attendez, je vous lis quelque chose qui m'a beaucoup plu aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut écouter? C'est un peu lié. Merci Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Et je vais donner peut-être trois éléments ici. Et ça se vérifie dans le cours. La question est celle-ci. Pourquoi il est important de résoudre rapidement les problèmes dans le mariage? Pourquoi il est important de résoudre rapidement les problèmes dans le mariage? Premièrement, pour profiter du sommeil. Si tu ne résous pas rapidement le problème, tu ne vas pas bien dormir. Bah, ton esprit va méditer sur ça jusqu'au matin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai aimé cette approche. Il dit, le sommeil est un combat quand on n'est pas en bon terme avec son conjoint. Deuxièmement, pour éviter qu'un petit problème ne se transforme en problème ou complication plus importante. Vous voyez, cette histoire qui a commencé comme ça, comme une étincelle, va devenir un feu de brousse. Si tu ne règles pas ça immédiatement. Parce que quand vous allez dormir avec ce problème, la nuit, votre esprit va aller sur tous les défauts de l'autre. Oui, je comprends pourquoi. Un jour comme ça, il avait fait. Satan va dire, oui, le jour-là, il avait prémédité le mal qu'il... Ce que tu as entendu, il avait déjà prémédité. Toute la nuit va te faire cinéma le vouri, écran géant. On va mettre tous ses défauts à l'écran. Tu vas visionner le matin quand tu vas te lever, ton cou sera énorme. Même dit bonjour, pff, ça va t'étouffer. Bonjour, pff, c'est comment? Même bonjour, ça ne sort plus. Toute la nuit, c'est toutes les choses que tu as avalées pendant la nuit. Oh, si nous partons du principe qu'on est tous faillibles. On a tous nos moments d'erreur. On va devenir plus tolérant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais ça, le fait d'être tolérant ne veut pas dire accepter que la personne reste dans l'erreur. Non, mais c'est de l'aider à prendre conscience lui aussi qu'il a la possibilité de changer et qu'il a une personne sur qui il peut compter. Alléluia. C'est pourquoi le mariage n'est pas un lieu où on identifie les erreurs de l'autre et on le balance au visage. Non. Le mariage est un lieu où on enterre nos défauts. On les enterre pour pouvoir ressusciter dans nos qualités. Est-ce que quelqu'un me suit? La vérité, c'est que tu ne maries pas un homme parfait, ni une femme parfaite. Hein? Ça n'existe pas. Je n'entends pas. On te donne un micro. Nous, on veut profiter de ta sagesse. Alléluia. Ok, tu dis? Amen. C'est important. Donc, je parle de cette partie sur l'infaillibilité pour comprendre que si on peut vivre dans un couple, parce que la vie du leadership, c'est une vie où on est ensemble, où on se frotte les uns aux autres. Alors, du jour au lendemain, tu vas dire, ah non, celle-là, je n'aime pas, je ne la sens pas. Bien-aimé, vous êtes appelés dans le même royaume. Vous servez le même Dieu. Au ciel, vous allez louer Dieu ensemble. Est-ce que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi? Même si on a commencé sur une fausse note au début. Ah oui! Ce n'est pas les relations qui ont bien commencé qui finissent bien. Il y a même des relations qui ont mal commencé, mais qui ont eu une fin glorieuse. Une fin glorieuse, les bien-aimés. Une fin glorieuse. Alors ne partons pas dans une collaboration sur la base que je me sens bien avec toi. Celui que tu vas te sentir même bien peut te sortir une carte demain que tu vas entrer au coma. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et c'est ça que je voudrais que nous comprenions ce soir. En tant que leader pour la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur, nous devons comprendre que nous avons aussi, que nous sommes tous appelés imparfaits. Nous venons tous imparfaits, afin que Dieu qui est parfait nous perfectionne chaque jour. Et parfois, il nous perfectionne en nous mettant avec celle-là. Il sait que vous ne vous aimez pas dès le départ, mais il vous met au même endroit. Vous allez apprendre à vous aimer. Un jour, Jésus était quelque part pour vous montrer que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un débat de qui va occuper une place importante, qui va s'asseoir à la droite du Seigneur. Amen. Alors, les fils de Zébédée, André et son frère, sont allés voir leur maman. Vous dites, viens parler pour nous. Alléluia. Donc, ils ont fait venir leur mère pour intercéder pour eux, pour qu'ils puissent avoir une meilleure place à côté du Seigneur. Le Seigneur dit, mais vraiment, je ne sais même pas qui va s'asseoir à gauche ou à droite. Cette question-là, ce n'est pas à moi de la résoudre. Ce n'est pas moi qui réponds à cela. Et vous voyez, dans la marche du leadership, tout le monde veut être proche de la lumière. Tout le monde veut être proche, proche, intime à celui qui porte la lumière. Mais en étant proche, tu découvres aussi l'humanité de l'autre. Tu découvres l'humanité de l'autre. Ses défauts, en d'autres termes. Alléluia. Ses défauts. Mais si tu restes sur ses défauts, tu vas perdre de vue le don qui est à l'intérieur, qui est censé t'amener à un prochain niveau de ta destinée. Alléluia. 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 C'est pourquoi une des clés pour vaincre l'infaillibilité, ce n'est que l'humilité. Ce n'est que l'humilité. L'humilité. Un autre danger qui guette le leader. La popularité. Ah oui. La popularité. Oui, bien-aimé. Nous aspirons tous à être acceptés des autres, à être aimés des autres. Les bébés apprennent à être sociables en s'adaptant aux signaux émis par ceux à qui ils cherchent à plaire. Il n'est cependant pas bon de trop dépendre de l'opinion des autres pour notre propre estime de soi. L'opinion populaire, trop répandue, l'opinion populaire évolue constamment. L'opinion populaire évolue constamment. Ça veut dire que quoi? Il y a beaucoup de gens qui vont t'aimer parce que tu les donnes à manger. Leur amour va disparaître le jour où tu n'auras plus à leur donner à manger. Vous voyez? Leur opinion change. Alléluia. Leur opinion change. Tu vas donner des beaux vêtements à ta voisine. Elle va dire, voilà ma seule maman. Elle va même faire les statuts Facebook sur toi. Elle va te mettre sur son statut WhatsApp. Elle va te mettre sur sa story sur Facebook. Mais le jour où tu ne vas plus lui donner ce vêtement, même jour, elle va raser ta tête sur Facebook. Ça veut dire que maintenant, il y a des logiciels qu'on peut te montrer rasé, crâne rouge. Donc, elle va mettre ce truc-là. On va voir tête rare, rasée. Tu vas dire, ah, elle dit, pardon, tu n'es plus ma mère. Tu es mon ennemi. Alléluia. Tu es mon ennemi. Alors, fais dépendre notre bonheur notre bonheur de notre popularité est une forme d'idolâtrie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de leaders qui sont heureux quand on les célèbre. Et le jour où les gens ne les célèbrent plus, ils s'en trouvent mal. Ce que tu n'as pas compris, que si tu marches selon la popularité, tu creuses ta propre tombe. Rappelez-vous, la réputation d'un homme est ce qu'un homme lui donne. L'intégrité d'un homme est ce que Dieu lui donne. Alléluia. Alors, si un homme te donne une réputation, c'est un vêtement. Demain peut te l'enlever. Voilà. On met présent de mon destitut. C'est un vêtement. Les mêmes gens qui ont dit, béni soit celui qui vit au nom de l'Éternel. C'est les mêmes qui ont dit, crucifiez-le. Alléluia. Les mêmes collègues qui t'apprécient aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont t'enterrer demain. Alléluia. C'est la raison pour laquelle un leader est d'abord un homme de conviction et non d'émotion. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Beaucoup de gens croient que l'amour, ça veut dire accepter tout le monde. L'amour, c'est obéir au commandement de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. L'amour, ce n'est pas ouvrir ta barrière à toutes les nécessités de la République. L'amour, c'est obéir au commandement de Dieu. Jésus dit, la parole de Dieu dit quoi? Que si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Obéissez. C'est quoi? L'amour est un ordre, est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous, c'est un ordre. Ce n'est pas une, c'est pas une émotion. On ne te demande pas d'avoir une émotion, de sentir que tu aimes. On t'ordonne que tu y sens ou pas. Tu dois faire ça. Et si on est ensemble. Alléluia. Je répète. L'amour n'a rien à voir avec des émotions. Et c'est pourquoi nous perdons toujours. L'amour, c'est deux choses. Ou bien deux images. L'amour, c'est une personne. C'est Jésus. Alors, si tu parles d'amour, tu dois parler de Jésus. Tu dois parler de Jésus. Si Jésus n'est pas glorifié dans ce que tu fais, tu n'aimes pas. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Alors, tu ne peux pas dire, j'aime cet homme. Et vous vivez dans la fornication et tu dis que tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas. Ici, c'est des sentiments, c'est des pulsions que vous voulez assouvir. Et après, c'est la raison pour laquelle quand ce qu'il a, Abnon, a couché avec sa sœur, sa demi-sœur, alors qu'il aimait beaucoup. La Bible dit qu'il était fou, amoureux d'elle au point de tomber malade. Et il en a parlé à son cousin. Son cousin a dit, fais semblant d'être malade. Et quand tu vas être malade, demande à ton papa de demander à ta soeur de faire ton médicament et de venir te servir. Le repas que tu aimes, c'est ton médicament. Et quand elle sera à ta portée, fais ce que tu as fait. Et la Bible dit qu'il a fait ainsi. Et sa soeur est venue, elle a préparé son bouillon. Elle est venue, elle a servi et elle a profité de ce moment-là pour la violer. Et sa soeur lui a dit, ne le fais pas, ne fais pas comme ça. Tu commets un crime. Demande ma main à notre père, il ne te refusera pas. Alors vous croyez que si c'était un homme qui aimait, il allait accepter d'aller demander sa main à leur père? C'est pas ça? Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait assouvir ses pulsions. Et quand il a fini de faire ce qu'il avait fait, la Bible dit qu'il fut animé d'une grande haine. Donc la dimension de ce qui était de l'amour s'est mutée en une, la même dimension en haine. Il a chassé. Il a chassé et sa soeur lui a dit, ne fais pas ça. Tu détruis ma vie. Alléluia. Alléluia. Alors chaque fois que ce dans quoi, ce que tu te, ce que tu dis aimer, la gloire de Jésus n'est pas dedans. Tu n'aimes pas. Tu satisfais des sensations et des pulsions. Oh, j'aime le gâteau. J'aime la glace. Avant, je mets le mot adorer. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a aidé à comprendre que l'adoration n'appartient qu'à Dieu. Je me dis, ah, j'adore le gâteau au chocolat. Ah, non. Ça devient une idole. Tu aimes la popularité. Notre aspiration à la popularité doit dépasser la seule envie d'entendre les autres dire du bien de nous. D'entendre les autres dire du bien de nous. Nous devons aspirer à avoir un bon témoignage dans le monde. Alléluia. Alors si tu cherches la popularité, ça veut dire que tu as des choses à cacher. Parce que la popularité cache ta vraie identité. mais le témoignage, c'est ce que tu as à l'intérieur. Philippiens, regardons Philippiens. Philippiens 2, le verset 15. Que dit l'apôtre Paul? Philippiens 2, le verset 15. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous brillez comme des flambeaux. Alléluia. Chaque jour, la popularité, c'est quoi? C'est chercher à ce que les gens vous aiment. Alléluia. Quand tu cherches à ce que les gens t'aiment, les gens t'apprécient, le jour qu'ils ne t'aiment plus, tu chutes. Tu ne dors plus. Tu es mal à l'aise. Tu es affecté. Parce que la popularité, c'est le désir de l'homme d'être accepté par les hommes. C'est le désir de l'homme d'être accepté par les hommes. Je veux aussi qu'on m'aime. C'est pourquoi chaque fois qu'on vient à l'église, vous allez entendre les témoins, personne ne m'aime. Bien aimé, nulle part il est écrit qu'on est censé t'aimer. Amen. Nulle part. Jésus n'a rien dit de tel. Il n'a pas dit qu'on va t'aimer. Il n'a pas dit qu'on va t'accueillir. Il a même dit que je vous envoie au milieu. Vous êtes quoi? Il a dit vous êtes quoi? Des brebis. Je vous envoie au milieu des loups. Des loups. Alors, quelle est la nourriture du loup? C'est pas l'agneau. Regardez encore. Allons même encore en arrière. Il dit à l'homme que tu es poussière. Tu retourneras la poussière. Et il dit au serpent, toi tu vas ramper et tu vas te nourrir de la poussière. Ah, ça veut dire la nourriture du serpent, c'est qui? C'est toi. Elle change pourquoi j'ai les combats. Tu es la nourriture de quelqu'un. Lui veut se nourrir. Toi, tu ne veux pas entrer dans la bouche. Lui, il veut t'avaler. Donc, ton combat chaque jour, c'est pourquoi on ne t'avale pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne cherche pas à être populaire. Cherche à avoir un bon témoignage. Cherche à avoir un bon témoignage. Qu'on dise, ici, il y avait un frère. Non, il était bien. Il avait le témoignage, c'est quoi? C'est la vie de Dieu en toi. On voit Jésus au travers de ta vie. On voit la vie de Jésus au travers de toi. Pourquoi on a dit aux premiers chrétiens, on les appelait les chrétiens? Parce qu'on voyait la vie de Christ en eux. Est-ce que quand on te regarde, on voit la vie de Christ en toi? Dans ton service, voit-on la vie de Christ en toi? Dans ta manière de faire, dans ta manière de parler, dans ta manière d'être, voit-on la vie de Christ en toi? C'est pourquoi la popularité est une illusion. C'est une illusion, ça change tout le temps. Qui a mené beaucoup de personnes à leur propre perte? Rappelez-vous, le roi Hérode est au sommet de sa popularité. Alléluia. Au moment même de sa mort aux yeux de tous, tandis qu'il était au centre de l'attention, le roi Hérode, il a tapé sa poitrine, il est sorti sur son balcon, il a dit, oh, c'est moi qui ai bâti tout ça. Le même jour, Dieu a dit, ton âme t'est demandée. La Bible dit qu'il est mort, son corps a pourri directement. Les vers sont sortis de son corps, l'humiliation. Ne cherche pas la popularité. Saül a passé toute sa vie pour être populaire. Et à cause de la recherche de la popularité, il a perdu l'intimité avec Dieu. Chaque fois que tu travailles pour la popularité, tu perds ta communion avec le roi des rois. Alléluia. et ta communion, de ta communion dépend ton témoignage. Dépend ton témoignage. Alléluia. Dépend ton témoignage. Ne cherche pas la popularité. Dis à ton voisin, ne cherche pas la popularité. Dis à ton voisin, ne cherche pas la popularité. Cherche à avoir un bon témoignage. Alléluia. Cherche à avoir un bon témoignage. Alléluia. C'est dur, c'est fort. Ça... Hein? Ne cherche pas à être populaire. Alléluia. Travaillons pour avoir un bon témoignage au milieu des frères. Dans l'église, travaillons pour avoir un bon témoignage. Le témoignage d'une vie de sainteté, d'une vie de vérité, d'une vie d'humilité, d'une vie d'amour, d'une vie de service. Alléluia. Aujourd'hui, on a le témoignage de Mère Teresa. Une vie de service dédicacée aux pauvres. Où est tes œuvres? Où sont tes œuvres? Tu dis que tu es chrétien. Où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Alléluia. Un autre danger qui guette les chrétiens, les leaders, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Vous savez, l'un des dangers les plus féroces, les plus mortels pour la vie d'un, plus que les autres, hein, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Un hypocrite, c'est un serpent qui te mord dans le dos. Alléluia. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être pour toi alors qu'il est contre toi. Alléluia. C'est quelqu'un qui mange dans le même plat avec toi, mais t'empoisonne à ta prochaine bouchée. C'est ça un hypocrite. Et la Bible nous montre comment Jésus a été sévère, extrêmement sévère avec les hypocrites. Extrêmement sévère. Le Seigneur a été extrêmement sévère. Le Seigneur parle en tant que juif à des juifs. Et en tant que tel, le message du texte n'est pas que les dirigeants appartenant à un certain groupe religieux soient hypocrites. Le message est au-delà du texte spécifique. Du texte spécifique est plutôt qu'il existe un danger général d'hypocrisie parmi les leaders et que les chrétiens ne sont pas malheureusement mieux lotis que d'autres. Alléluia. Bien-aimés, notre Seigneur prend beaucoup de temps. Matthieu chapitre 23, le verset 1 à 3. Matthieu 23, 1 à 3. La Bible dit, alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples. Il s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, qu'est-ce qu'il va dire? Quelqu'un a-t-il le texte? Les docteurs de la loi et les pharisiens se sont fait des interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Voyez, un hypocrite, c'est faire ce que je dis, pas ce que je fais. Alléluia. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. En fait, un hypocrite n'est pas un exemple. Alléluia. Nous sommes allergiques à cette attitude. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Cette incohérence majeure disqualifie le leadership. Disqualifie le leadership. mais aussi une invitation à réfléchir chacun pour soi. Suis-je hypocrite? Même inconsciemment, parce que j'enseigne, je prêche des choses que je ne vis pas. C'est exactement cela que Jésus reprochait aux pharisiens. Mais cela m'interroge personnellement. Mais involontairement, ne suis-je pas un adepte de ce que faites ce que je dis, mais pas ce que je fais? Alléluia. Un hypocrite est prompt à donner des instructions. Jamais il les fait lui-même. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est pourquoi j'ai dit c'est l'un des dangers les plus mortels dans la vie d'un leader. Qu'un leader est somme toute un hypocrite. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est pourquoi le serpent dans le jardin était hypocrite. Il a fait croire à Ève qu'il l'aidait. Alors qu'il était en train de satisfaire sa propre mission. Un leader va venir te voir. Vraiment, tu vois la situation là. Vraiment, moi, si j'étais à ta place, moi, je ferais. Donc, il stimule un sentiment d'inconfort en toi. Il te pousse à te rebeller. Mais lui, derrière, il dit, ah, moi, je ne connais pas. Moi, je me dis comme ça, là. Moi, je me dis comme ça. Moi, je ne savais même pas qu'il allait réagir comme ça. Oh, vraiment, les gens sont méchants ici, dehors. Alléluia. Où est l'hypocrite? Où est l'hypocrite? Il te pousse à faire quelque chose. Il est le premier à aller se dénoncer. Oh, vraiment, moi, je demande pardon. Vraiment, j'ai compris mon erreur. Mais il te laisse dans ton erreur. Il te laisse dans ton erreur. Un hypocrite est une fausse personne. Il te donne l'impression d'être une bonne personne en derrière, mais il te prépare quelque chose derrière. Devant, mais il te prépare quelque chose derrière. Alléluia. Alléluia. Donc, moi, j'aime beaucoup les mamans. Les mamans savent discerner l'hypocrisie dans le cœur de leurs enfants. Je te connais, toi. Tu es hypocrite. Les mamans savent que cet enfant, c'est hypocrite. Elle me cache quelque chose. Alléluia. Alléluia. L'hypocrisie. L'hypocrisie corrompt l'âme de l'homme. Un autre danger qui fête la vie du leader, le découragement. Oui. Le découragement. C'est une blessure spirituelle incroyable. Tout vrai serviteur de Dieu passera par des temps de succès et même de très grands. Mais aussi par des périodes de dépression, d'oppression, de découragement et d'amertume. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même fut élevé au rang des dieux et il fut lapidé quelques instants après. Alléluia. Actes chapitre 14, à partir du verset 8 jusqu'au verset 20. Après sa confrontation avec les faux prophètes sur le mont Carmel, Élie fut tellement déprimé qu'il souhaitait mourir. Vous vous rappelez? Je crois dans 1 Samuel chapitre 1, roi chapitre 17. Alléluia. Non, 18. 18 ou 19 comme ça. Vous allez vérifier vous-même. Alléluia. Bien-aimé. La dépression, le découragement ont habité le cœur d'Élie. Alors qu'il venait de faire descendre le feu du ciel pour consumer l'autel. Mais à la seule mention de Jézabel, Jézabel lui a dit que comme tu as tué mes prophètes, tu es fort. Bon, si tu es fort, c'est que ta tête va rester sur tes épaules. Et je te promets que d'ici le soir, il n'y aura plus la tête sur tes épaules. gars a pris les jambes à son cou, il a détalé. Et quand il est arrivé au Kérib, il a dit à Dieu, laisse-moi mourir. Je vais me suicider, ça ne vaut plus la peine. Je suis resté moi seul. Dieu dit que ça ne va pas. Ouais, la dépression d'un homme. La dépression. Chaque fois qu'un homme est dépressif, il sort de la pensée de Dieu. Dieu lui dit, attends. Est-ce que tu sais qu'il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, que j'ai caché? Alléluia. Amen. Rappelez-vous de David dans 1 Samuel chapitre 21. Après avoir été oint comme roi, David tua Goliath. Et pendant que le pays entier le sollicitait, Saül en voulut à sa vie. Aussi, il fut si découragé qu'il mentit. Alléluia. Le découragement. Le découragement peut amener un homme à se corrompre. N'acceptez pas le découragement dans votre cœur. Évitez, c'est une blessure qui suppure. Et à long terme, ça devient une dépression dans la vie du leader. Alléluia. Alors, tout le monde est passé par ça. Notre Seigneur lui-même, quand il arrive à Gethsémané, il prie pour que la coupe lui soit ôtée. Il était dans un état intense de découragement et de dépression. Mais gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Qu'il a eu un sixième sens pour dire que non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'au moment-là, lui-même a voulu déposer l'affaire là. Alléluia. Alléluia. Alors, il est important de comprendre que tout leader peut passer par des temps de découragement. Le découragement est normal. Mais lorsque tu le gardes de manière permanente, ça devient une blessure. Ça devient quoi? Une blessure. Une blessure. Qu'est-ce qui te décourage en ce moment? Peut-être ton travail, peut-être les finances. Peut-être ta femme, peut-être ton mari, peut-être tes enfants. Mais si tu y restes, tu vas rentrer dans la dépression. Et la dépression va te donner l'AVC. Et ça, ce n'est pas gratuit. Il faut beaucoup d'argent pour soigner. Et on ne guérit pas de ça. Le docteur Amel m'avait dit, le traitement, c'est 800 000. Tu vas à l'hôpital, tu déposes 800 000. Et on n'est même pas sûr que tu vas t'en sortir. Alors si tu as 800 000, tu peux développer cette maladie. Si tu as 1 million dans ton compte qui ne te sert à rien, tu es autorisé à développer cette maladie. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu ne dis plus amen. Hein? Le découragement. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent sur le coup du découragement. Sur le coup du découragement. C'est pourquoi je voudrais t'encourager ce soir. Rappelez-vous dans le livre de Josué chapitre 1. Josué, chapitre 1. Après que Moïse soit décédé et que Dieu l'ait lui enterré, la Bible dit que Josué était découragé, extrêmement découragé. Son père spirituel, son mentor, son leader n'était plus là. L'homme qu'il avait tout appris. L'homme qu'il avait introduit dans les sphères de la spiritualité n'était plus là pour le guider. Alors, il faut savoir que parmi les gens qui ont eu beaucoup de douleurs pour l'absence de Moïse, Josué était le premier. Il a énormément souffert. Alors, si vous observez, Dieu va venir le visiter. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Dieu qui vient dire à Josué que mon serviteur Moïse est mort. Donc, c'est bon. Je l'ai enterré. Dieu vient lui dire que Moïse est mort. Ensuite, il lui dit, lève-toi. Passe ce Jourdain et toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. J'aime le verset 6 qui répète d'ailleurs verset 7. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Mes bien-aimés. Alors, si Dieu répète une parole, c'est pour montrer la profondeur du découragement dans lequel se trouvait Josué. Alors, cette parole, c'est pour quelqu'un qui est découragé ce soir. Peut-être tu m'écoutes, tu es découragé. Dieu me dit de te dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Cette prophétie va s'accomplir. C'est au travers de toi que cette parole va se manifester. C'est au travers de toi que la délivrance va se manifester. C'est au travers de toi que la guérison va se manifester. C'est au travers de toi que le salut va entrer. Au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, il est question de Goliath, qui avait visité le peuple d'Israël, qui avait lancé un énorme défi. Pendant 40 jours, le vaillant peuple de l'Éternel était paralysé par le découragement et la peur. Il avait dit au verset 32, David est arrivé ce jour-là pour visiter ses frères. Et après avoir répondu au défi de Goliath, David va dire au verset 32, David dit à Saül, c'est à Saül qu'il va parler, ce n'est pas à Saül. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Si vous voulez vous décourager, pas à cause de lui. Il y a des combats contre. Non, il y a des adversaires que tu n'as pas le droit de te décourager. Tu ne peux pas te décourager parce que tu manques d'argent. Tu ne peux pas te décourager parce que tu n'as pas à manger. Tu ne peux pas te décourager parce que tu n'as pas ci ou ça. Tu n'as pas à cause de lui quand même. Vous êtes un peuple, vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Mais est-ce que tu sais que ton identité de te donner ce que tu as besoin? Alléluia. Ne te décourage pas. Chaque fois que nous gardons le découragement en nous, ça change en amertume. Alléluia. C'est pourquoi ne laisse pas les racines du découragement remplir ton cœur. Rappelle-toi de ce que le Seigneur a dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Et vous voyez le verset 7, j'aime beaucoup. Maintenant, il lui dit sur quoi il doit fonder son courage. Alléluia. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Alors, comment tu dois trouver du courage dans les promesses que Dieu t'a données? Comment tu dois trouver du courage dans ce que Dieu a dit? Dans sa parole. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Prends courage.